Nous allons vous parler à deux voix d'un texte qui n'est pas très connu des historiens de la Normandie, bien qu'il ait été publié il y a longtemps, en 1867, parce que considéré comme faux. Alors, a priori, pourquoi s'intéresser à un faux ? Il s'agit justement de s'interroger parce que sur l'authenticité de ce document qui a été qualifié comme tel, mais qui n'a jamais fait véritablement l'objet d'une étude poussée. À l'origine, je remonte un petit peu en arrière, à l'origine de cette condamnation, il y a une histoire ancienne qui débute en 1669 avec le récit publié par Nicolas Villot, donc en 1669, qui s'appelle « Relations des côtes d'Afrique avec la description du pays, mœurs et façons de vivre des habitants, des productions de la terre et des marchandises qu'on en apporte », et c'est là que ça devient intéressant, avec les remarques historiques sur ces côtes. On est donc à l'époque de Colbert, le commerce entre la France et l'Afrique, mais principalement la Normandie, a fortement décliné. Nicolas Villot effectue donc une mission un peu de reconnaissance en Afrique à bord d'un navire hollandais, et puis il décrit donc au retour son voyage. Et à la fin de son récit de voyage, il fait une histoire des relations entre l'Afrique et l'Europe, et il affirme que des marins de Dieppe, en 1364, seraient allés donc en Afrique, au Sénégal, puis ils seraient retournés en 1365. Ils auraient effectué avec les populations du lieu un commerce, seraient revenus dans les années 1379-80, puis ce commerce aurait cessé dans les années 1410. Alors, cette histoire de Nicolas Villot est bien connue, mais en dehors de quelques érudits normands, au XIXe siècle, elle n'est pas sortie du cadre de la Normandie. Dans les années 1830, plusieurs auteurs rapportent cette histoire et la commentent, et il s'ensuit un débat très fort, un débat très important qui va durer une quarantaine d'années. En fait, cette expédition est considérée comme ne pouvant pas avoir eu lieu par la plupart des auteurs, en particulier par le vicomte Santarém, un auteur portugais très célèbre, qui a été ministre de Miguel Ier, qui est réfugié en France après un coup d'État, et qui est l'un de ceux qui ont construit, on va dire, l'histoire des grandes découvertes dans la première moitié et le milieu du XIXe siècle, ce récit de la progression des Portugais vers les côtes africaines, etc., un récit qui a été chez nous enseigné jusqu'à la fin du XXe siècle. Certains auteurs français restent tout de même convaincus de la véracité de ce titre, de cette histoire, mais l'argument essentiel, c'est qu'il n'y a qu'un seul récit, qu'un seul texte qui la rapporte, et on considère que ce récit n'est pas crédible. Pierre Margry, qui est archiviste donc au ministère des colonies, ou documentaliste, est convaincu que cette affaire est authentique, et il cherche longtemps la preuve dans les archives normandes, la preuve, c'est-à-dire une autre source, un autre texte qui évoquerait ce voyage. Ses recherches sont vaines, jusqu'à ce que Lucien de Rony lui apporte un texte, c'est ce texte que nous allons vous présenter, texte que Pierre Margry publie en 1867. Alors, il l'a publié d'une manière pas tout à fait correcte, c'est un élément, je crois, important. Et en 1867, un nouveau débat s'ouvre, et ce texte donc est considéré comme faux, comme une forgerie. À partir d'une démonstration de Henri Major, qui est curateur des cartes au British Museum, secrétaire de la très illustre Euclid Society, et qui affirme alors avec des arguments extérieur, que ce document ne peut pas être authentique, son propriétaire n'a pas été retrouvé, etc. Je vais passer assez vite sur ces critiques. La principale critique, en fait, porte sur l'aspect archaïque de la langue et sur le fait que, encore une fois, c'est un document qui sort de nulle part, on n'a pas le manuscrit original, etc. La plupart des auteurs français adoptent cette position, notamment Charles de la Roncière, qui construit une hypothèse pour expliquer que ce document aurait été forgé à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle pour satisfaire la vanité Pruneau de Pomme-Gorge, qui portait le même nom que notre héros, enfin que le héros de ce texte. Bon, et à partir de Charles de la Roncière, en fait, on a considéré que ce document était inauthentique. Quelques exceptions près que vous retrouverez dans le texte écrit, hein, dans la version écrite, où on fera une historiographie complète hein, des débats qui ont eu lieu. Notre objectif ici, c'était de réétudier le document sous un angle historique et sous un angle philologique. Hein, c'est pour ça que donc, nous sommes associés sur cette question. Donc on va d'abord vous présenter le document, enfin c'est Françoise qui va le faire, vous présenter le texte, son édition, et puis ensuite j'essaierai de revenir sur certains éléments historiques.
Le document qui est à l'origine de toute l'histoire est connu par une copie d'un personnage que Christophe a déjà évoqué, Lucien de Rosny. Donc on est en présence d'une copie qui se trouve dans le manuscrit Nouvelles acquisitions françaises 9339 de la BNF et qui fait partie des 256 volumes de copies qui ont été faites par ou pour Pierre Margris dans divers dépôts d'archives, dans diverses bibliothèques. Ce sont généralement des feuillets ou des cahiers qui sont montés sur onglets. Donc on est en présence d'un recueil de textes d'origines diverses. Le volume en question, dans lequel se trouve le texte de Rosny, est composé de copies de documents sur les expéditions françaises en Guinée et en Sénégal. Et parmi ceux-ci, du feuillet 7 verso au feuillet 10 verso, se trouve la copie de la brève histoire. Le document original, Christophe l'a dit, dont la copie figure dans le manuscrit Nouvelles acquisitions françaises, n'a jamais été retrouvé. On en connaît les aspects matériels que parce qu'on a dit le copiste, Lucien de Rosny, à travers deux lettres, l'une adressée par lui-même à Henri Major, dont on a déjà fait allusion, et l'autre par Pierre Margris. Un mot sur le copiste. Lucien Prunol de Rosny, qui est né à Valenciennes en 1810, républicain et franc-maçon, il a quitté la France après le coup d'État du 2 décembre 1851 pour l'Angleterre, où il est demeuré 8 ans, et où, empêché de poursuivre ses recherches sur l'histoire de l'histoire du nord de la France et de la Flandre en particulier, il s'est pris de passion pour l'archéologie américaine où il s'est illustré ensuite. Néanmoins, avant de quitter la France, il avait déjà publié, et en particulier publié à Paris chez Techner, donc dans les années 1830, chez Techner qui est un éditeur spécialisé dans les premières éditions des textes en langue vulgaire, divers volumes, et en particulier une notice du 14e ou 15e siècle sur Bertrand de Reims, d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale. Il s'agit d'une édition d'extrait d'une chronique de Flandre anonyme qui est conservée dans un manuscrit encore aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, le manuscrit 2799, et qui permet de comparer le texte original avec l'édition qu'en a donnée de Rosny, et Rosny se révèle un éditeur extrêmement attentif, soigneux, et qui prend la peine, ce qui est rare à l'époque, de compléter son édition par un glossaire, là aussi, où il se révèle un philologue tout à fait compétent pour l'époque. D'autre part, parce qu'il y avait une deuxième chose à assurer, c'est que cette copie était bien de la main de Rosny. Une partie de la correspondance de Rosny est conservée à la bibliothèque municipale de Lille, et la comparaison de l'écriture du texte de la brève histoire avec une lettre, une lettre de Rosny conservée à la bibliothèque de Lille, ne donne aucune, il n'y a aucune ambiguïté, il s'agit bien de la copie de Rosny. Alors, peu de temps après son retour en France, dans les années 1860, Rosny, dont j'ai dit qu'il a abandonné ses études, disons, d'histoire de la Flandre pour l'américaniste, rencontre Margris et lui donne son texte. C'est donc le texte de Rosny fourni à Margris qui a servi de base à l'édition. Et c'est dans les prémices de l'édition de Rosny qu'on trouve un certain nombre de renseignements sur le manuscrit sur lequel Rosny a copié son texte. Il se trouvait à Londres fréquentant le British Museum. Là, il se rencontrait souvent avec un homme distingué d'Oxford Street, nommé William Carter, qui, le voyant rechercher de vieux textes français, puisque c'est au début de sa période d'émigration, donc il continue à travailler sur l'histoire de France, mit à sa disposition un volume contenant, je cite, une série de pièces détachées, copiées vraisemblablement vers le milieu du XVIIIe siècle. Alors, vous avez maintenant la copie de Rony. Vous voyez comment il travaille. Il copie et il met, pour les mots difficiles, il met les gloses entre parenthèses. D'autre part, on a sur quelquefois l'intervention de Margris, dont la main aussi est identifiée, qui a corrigé les errements ou complété. Corrigé en particulier pour une glose, il a bien corrigé un praéchier que Rony avait glosé, prié, l'a bien corrigé en prêché. Mais ce qu'il faut signaler tout de suite, c'est que Margris, dans son édition, a complété le texte de Rony par un court texte qui se trouve sur un feuillet distinct et qui n'a aucun rapport avec le texte de Rony. Donc, nous avons laissé tomber cette partie de l'édition de Rony qui doit être soumise à une autre critique. Hein. Il ne s'agit pas de la même chose. D'autre part, cependant, cette copie de Margris permet de comparer les écarts qui existent entre la copie manuscrite de Margris et sa propre édition. Et on voit qu'il se révèle un éditeur assez peu soigneux. Par exemple, il y a 2 en chiffres romains dans sa copie manuscrite et dans son édition, il a tranquillement transcrit 11. Donc, l'édition de Margris est une mauvaise édition. Il faut, pour critiquer le texte, n'utiliser, hein, et nous donnerons l'édition de ce texte dans la version écrite, n'utiliser que la copie Lucien de Rony. Et c'est là où on peut commencer à repérer chez Rony une attention extrêmement poussée au texte qu'il transcrit. Il transcrit un texte dont on sait que c'est une copie du XVIIe siècle. Mais à travers la copie du XVIIe siècle transcrite, il faut mettre l'hypothèse que c'est fidèlement par Rony, on voit bien qu'il transcrit ce qu'il lit, c'est-à-dire la séquenciation des mots sans apostrophe, séparant l'article et l'idée de ce qui suit, pas d'utilisation de signes diacritiques, le respect des abréviations médiévales, voire le respect de l'absence d'un tilde qui permettrait de donner un mot avec AN alors qu'il n'a que A. Et plus intéressant encore, c'est sur le. Donc, si on pouvait revenir à la page 9, un mot qu'il a mal lu ou que le copiste du 17e a mal lu, peu importe, qui écrit A-L-U-L, suivi d'un point d'interrogation. Et si on réfléchit à ce qu'il a dû avoir, il a mal lu « al ciel », puisqu'il s'agit des gens qui sont remontés au ciel. Donc, même dans ces erreurs de transcription, on reconnaît une fidélité à un état antérieur, qui, soit la faute vient de lui, soit du copiste du 17e, mais tout ça nous ramène, les habitudes graphiques nous ramènent à un texte médiéval. Les habitudes graphiques et d'ailleurs quelques traits graphiques aussi qui ramènent au domaine normanno-picard, la forme tiers pour terre, jamais sous forme T-E-R-E, biel à piel, etc. Et pas chevauchie, donc il copie fidèlement, donc une copie 17e d'un texte qui me semble être un texte médiéval. Ce que révèle aussi le vocabulaire, y compris, non seulement le vocabulaire, disons, normal, mais le vocabulaire aussi des mots grammaticaux, d'expressions, par exemple, mettre des tris, hein, mettre de côté, qui est une expression médiévale que là aussi, il n'a pas compris, mais qui la copie, mais un point d'interrogation, il ne sait pas ce que ça veut dire, mais qui la copie fidèlement. Donc, des habitudes graphiques, du vocabulaire, des constructions aussi, des constructions de compléments de noms en carégibe direct, tout ça révèle, me semble-t-il, pas un, c'est impossible de penser à un faux du 19e, ça c'est impossible. De toute façon, Rony a une réputation de savant, c'est pas possible que ça soit lui, et c'est difficile de penser qu'au 17e siècle, pour des enjeux absolument mineurs, on ait forgé ce texte. Bon, je passe sur le vocabulaire. Il y a du vocabulaire médiéval avec une couche qui est du vocabulaire médiéval de l'ancien français et bien sûr aussi des mots qui commencent à affleurer en moyen français. Donc la date auquel on pourrait assigner l'original vers la fin du XIVe siècle coïncide tout à fait avec la... avec ce que donne, ce que dit le texte. Et pour ce qui est de la composition du texte, Christophe va y revenir, il y a tout un passage central qui ne se trouve pas chez Villot, pour lequel on pourrait reprendre ce que disait Lindwin ce matin, un faux récit généalogique à résonance épique, toute une partie du texte où on voit affleurer du vocabulaire épique des noms de personnes qui renvoient à une mythologie mérovingienne fantasmée. Hein. Donc, je pense vraiment qu'on est là en présence d'un texte, bien sûr, dont Rony dit lui-même qu'il n'a pas pu tout copier parce qu'il n'a pas pu tout lire. Donc, un texte tronqué, mais un texte qui donne une base à l'argumentation historique que mon distingué collègue va vous faire maintenant.
Le texte donc raconte le voyage d'un Jean Pruneau, d'un individu qui s'appelle Jean Pruneau ou le Rouennais, qui donc avec un navire d'abord aurait atteint les côtes de l'Afrique. Il donne des noms de lieux. Et puis, il serait revenu avec de l'ivoire et des peaux d'animaux sauvages. Deuxième voyage, l'année suivante, 1365, qui semble plus difficile. Les bateaux sont pris dans une tempête, dans des événements météorologiques compliqués qui les obligent à rester sur place. Le texte dit même qu'ils construisent une maison pour stocker leurs marchandises. Ils finissent par rentrer. Et puis, troisième expédition, 1379, là, c'est le jackpot. Ils ont trouvé de l'or, ils ramènent de l'or. Et en 1380, donc, ils reviennent à Pâques. Et tout le monde, il y a une grande fête qui est organisée avec l'archevêque, etc. Et surtout, Jean Pruneau est anobli. Et c'est là que se trouve le passage le plus épique, le plus romanesque hein, de l'affaire. On sent que le texte est construit autour de l'anoblissement de ce Jean Pruneau. Alors, dans le texte, il y a plusieurs personnages. Bon, Jean Pruneau, Rouennais, bon, on ne sait rien de lui. On nous donne des éléments sur sa famille. On nous parle de sa femme, Nathan, de grand lignage en Saxonie. Alors, encore une fois, on est peut-être dans un élément un peu mythique, bien que les Normands, à cette époque, faisaient du commerce dans la Baltique. Hein. C'est là qu'on est dans le rapprochement peut-être avec des noms, avec une certaine époque mérovingienne fantasmée. Hein. Les fils s'appellent Léger, le frère de Jean s'appelle Léger aussi, un autre fils s'appelle Archambault. Bon, et puis on nous donne des noms de plusieurs marins que nous n'avons pas du tout réussi à identifier, hein. Peut-être qu'un jour on trouvera, mais voilà. Parmi les personnages un peu plus importants, il y a le comte de Poitiers, c'est la lecture de Rony, que Marguerite a transformé en Pontieux. Alors, c'est une interrogation, parce que le comte de Poitiers, c'est Jean de Berry, on ne l'appelle pas vraiment comme ça dans la région, et puis il n'a pas grand-chose à faire en Normandie. Le comte de Pontieux, il n'existe plus dans les années 1364-65, depuis Bretigny, mais on pourrait trouver peut-être un élément, vous lirez ça dans les parties écrites. L'archevêque de Rouen n'est pas nommé, il est cité en tant qu'archevêque seulement, et puis il y a donc le roi qui aurait anobli Jean Pruneau à Dieppe au printemps après Pâques 1380. Alors, les itinéraires, l'itinéraire que l'on connaît de Charles V ne donne aucun élément attestant de la présence du roi en Normandie, à Dieppe, dans cette année 1380. Charles V circule peu, hein, sauf à la fin de sa vie, où il est à Reims en juillet 1380. Il n'y a aucun élément de preuve du passage du roi à Dieppe, mais il y a des trous dans son agenda, et on ne peut pas non plus absolument être assuré, hein, du fait qu'il n'a pas pu venir. Parce que c'est un argument utilisé, hein, pour dire « le roi n'était pas en Normandie ». Oui, il n'y a pas d'attestation, mais la chose n'est pas complètement impossible. Il y a surtout des noms de lieux en Afrique. Alors, en Afrique, voilà, je vous ai pointé les noms qui sont cités. Le premier, en fait, j'ai indiqué donc Sénégal. Ce n'est pas le Sénégal qui est cité, c'est Ovidègue. Alors, il y a d'autres noms, il y a notamment Bujador, j'ai oublié de l'évoquer, c'est important, Bujador, parce que la forme que l'on trouve dans la copie de Rony, ou peut-être il faudrait lire Bujeder, est tout à fait semblable à celle que l'on trouve dans les manuscrits du Canarien de Jean de Bettencourt, hein, et de Gadifère de la Salle. Autre nom, Ovidègue. Ovidègue désigne un fleuve que l'on peut considérer être le Sénégal. On trouve ce nom sous une forme très proche, Ovidec, avec un CH à la fin, chez Jean de Barros en 1447 pour désigner le fleuve Sénégal. Alors, c'est dans la deuxième moitié du XVe siècle, hein, que ce fleuve va être habituellement désigné sous la forme de Sénégal, hein, ou de Sénégal. Il faudrait donc admettre, s'il y a faussaire, que ce faussaire était particulièrement érudit pour connaître Jean de Barros, qui a été publié alors en portugais dans les années 1552, excusez-moi, pour la première édition à Lisbonne, ou considérer, hein, que ce nom est une autre attestation de cette forme ancienne du Sénégal. Autre nom, alors les autres noms, je vais passer pour l'instant, hein, sur le Sestos. Ce sont des noms qui sont localisés sur l'ancienne Côte de l'Or, dans l'actuel Ghana, Accra et Cormentin d'abord. Alors, Rony, donc la texte de Rony affirme que les Dieppois, j'espère que j'ai bien prononcé, firent Fort Castio au lieu qu'on dit Cormentin et Accra. Donc ils auraient construit des châteaux. Là, ça soulève des difficultés historiques importantes. Parce que la première fortification portugaise à Accra est attestée en 1562 et elle est construite pour empêcher les Français d'atteindre justement ces lieux, hein, de faire du commerce. Bon, dans les années 1550-60, le commerce normand à la Côte de l'Or est très important et c'est du commerce sous voile, hein, sur la plage. Bon, mais les Portugais construisent, hein, ce fort pour justement mettre fin à cette pratique. Accra est un nom d'origine fante, hein, c'est un nom, un toponyme africain. Cormentin est une place où la première fortification connue est attestée en 1631. C'est un employé de la compagnie néerlandaise, hein, qui aurait donc pris cette place pour le compte d'une société anglaise. Alors, c'est Fort Amsterdam à Abanze, aujourd'hui au Ghana. Le toponyme Cormentin est un toponyme pour lequel je n'ai pas d'explication. Voilà, si un jour quelqu'un a une idée. Mais je le trouve dans les sources normandes dans les années 1580 sous cette forme. Mais évidemment, absolument pas avant. Troisième lieu, la mine. Alors, dans le troisième voyage, les Dieppois arrivent dans un lieu, en fait ce sont des Dieppois qui se sont associés aux Rouennais, hein, un lieu qu'ils appelèrent la mine, pour la grande plantée d'or qui s'apportait de part en part. Alors la mine, on pense évidemment à Saint-Georges de la Mine, au Ghana, où les Portugais arrivent en 1471, et où ils fondent une forteresse, hein, qui, donc, en 1482, forteresse qui est le gros verrou portugais, hein, dans le golfe de Guinée. Alors est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est le même lieu? Ou est-ce que c'est un lieu différent? Simplement parce que, même principe, hein, on donne un nom parce qu'on croit que la mine n'est pas loin. Peut-être ne faut-il pas faire une totale assimilation entre ces deux noms. Le dernier nom, c'est le Sest. Alors, c'est le Grand Sest que les sources françaises appellent Paris ou ou le Grand Paris. Parce qu'il y a aussi des noms qui sont donnés par les marins, des noms français qui sont donnés à des localités africaines. Petit Dieppe, Petit Rouen, Petit Paris et Petit Germantreville. Alors Petit Dieppe, on sait où c'est parce que Petit Dieppe est bien attesté sur plusieurs cartes du XVIIe siècle. La plus ancienne donc date de 1631, mais on trouve ce nom sous cette forme dans une carte hollandaise de 1635, imprimée à Amsterdam, qui n'est absolument pas une copie de la carte diepoise que je vous présente ici. Hein. On a bien, dans les années 1630, donc, un nom connu en Europe, pas seulement en Normandie, mais en Europe sous ce nom. Petit Rouen, je ne sais pas où c'est. Petit Paris, Grand Paris, c'est le Sest, hein, donc sur la côte, la côte des Graines. Il reste Petit Germantreville. Petit Germantreville, en fait, et ça, Marguerite l'avait déjà un peu hypothéqué, enfin, posé un peu l'hypothèse, il faut voir une erreur de transcription du G, qui doit être un H, et c'est Hermantreville avec un H. Hermantreville, c'est le nom ancien de Saint-Sever, sur la rive gauche de la Seine, en face de Rouen. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce nom d'Hermantreville, qui est attesté dès le Haut Moyen-Âge, c'est là où les reliques de Saint-Sauveur sont apportées, donc dans les alentours de l'an 1000, vers 990. Et le nom du village, en fait, change. Au XIIIe siècle, c'est encore parfois Saint-Sauveur d'Hermantreville. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, c'est Saint-Sauveur. Le nom d'Hermantreville a disparu. Mais Hermantreville, le nom, reste donné au fief du lieu, au manoir du lieu. Vous imaginez le faussaire allait chercher un tel toponyme qui a quasiment disparu et qui va survivre en fait pour le nom du fief jusqu'au XVIe siècle, hein, guerre au-delà. On a donc un texte qui a toutes les apparences de l'authenticité, a une critique historique forte, celle de certains noms de lieux en Afrique, qui clairement quand même pose problème. C'est pourquoi l'hypothèse nous semble être... ces lieux de Accra Cormentin figurent dans les dernières lignes du texte, comme s'il y avait eu peut-être une interpolation, un ajout du XVIe ou du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, ce ne sont plus les grandes places commerçantes en Afrique pour les Normands. Hein. Les grandes places commerçantes, c'est le Sénégal, c'est le Cap-Vert, ce ne sont plus les places de la Côte de l'Or. Mais au XVIe et encore au début du XVIIe siècle, Accra et Cormentin et la mine sont les trois destinations importantes dans cette région pour les marchands normands. Alors, un autre élément qui nous pousse quand même vers une critique plutôt positive en faveur de ce texte, c'est qu'on peut mettre ce texte de Rony en relation avec un autre texte au moins et probablement un deuxième. C'est le texte de Villot de Belfond, le texte dont je vous ai parlé, publié en 1669, qui ne raconte pas la même chose, qui ne raconte pas, nous donne pas le nom de Jean Pruneau, qui ne nous parle pas de l'anoblissement de Jean Pruneau, qui simplement évoque la présence des Normands en Afrique. Parfois, on a l'impression que le texte édité par Villot de Belfond, qui est un texte écrit dans la langue du XVIIe siècle, parfois on a l'impression que c'est simplement une traduction du texte qui nous est transmis par la lecture de Rony. Premier exemple.
Alors, je lis le texte de Rony.
Je n'ose pas.
Les Gilofs, oncle n'avoir vu homme blanc. Sikil, ceux qui virent la naisse, furent espoantés et tôt retournèrent de rechief, ensemble juste la mer, à grand planté de leurs compagnons, pour voir teus normands, mais point ne couillois entrer sur leur naisse, jusqu'ils furent à sorté que si le normand ne vouloit ni les laits d'Angier, ou les navrer.
Le texte de Villot à côté, donc vous le lisez comme moi, hein. Les noirs de ces côtes, auxquels jusque-là les blancs avaient été inconnus, accouraient de tous les côtés pour les voir, mais ne voulaient point entrer dans les vaisseaux, jusqu'à ce qu'ils eussent remarqué que ces gens bien éloignés de leur faire du mal les caressaient et leur avaient apporté quantité de bagatelles dont la vue les surprit.
C'est le passage suivant que j'ai oublié de lire. Les bons navires qui leur estoient de grand cœur leur donnèrent à fusion petits joyaux et présents et firent bonne et leur firent boire bon vin vermeil, ce que moult les ai joyeux et affillèrent.
Il y a des passages peut-être encore plus marquants.
Ah donc ?
A donc les gens noirs d'Océan leur donnèrent morphie, piaux de bestes sauvages et autres causes de leur pays fort étranges à voir. Quand leurs notes furent pleines d'avoirs précieux et autres belles riens que ceux estoient merveilles, messire Jehan, son frère Légier et les compagnons de sa navie, de joie rébaudis, firent entendre cet homme noir qu'il retournerait encore là, l'an en suivant, et qu'il se approvisionnasse de ces marchandises, sauf qu'il l'y assehuère.
Le texte de Villot lui dit: pour lors, commençant de s'apprivoiser, ils apportèrent du morphie. Alors le morphie, c'est un terme arabe transmis par l'espagnol, hein, qui désigne la défense de l'éléphant. Hein. C'est l'ivoire, mais l'ivoire brut. Alors il traduit même, hein, parce que ce mot a un peu disparu au XVIIe siècle. Ils apportèrent du morphie ou de l'ivoire, des cuirs et de l'ambre gris qu'ils échangèrent pour ces bagatelles. Les Diepois voulant pousser plus avant, en faisant voile, firent comprendre à ces Noirs que les années suivantes, ils retourneraient et qu'ils fissent provision de ces marchandises, ce que les autres leur promirent.
Exactement la traduction de l'ancien français.
Alors, c'est la traduction à quelques détails près sur les noms des marchandises. Oui. L'ambre gris qui n'est pas attesté chez le texte transmis par Rony parle d'ivoire et de peau de bête sauvage. L'ambre gris est la grande marchandise que les marins de Dieppe, de Rouen vont chercher au Sénégal au début du XVIIe siècle. L'autre grande marchandise, alors c'était surtout au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'est déjà déclinant, ce sont les cuirs. Hein. Et évidemment, toujours cet ivoire. Troisième exemple, on passe peut-être pour aller vers un exemple qui introduit un troisième texte. Alors, j'en dis un petit mot. Donc, c'est le texte de Samuel Brown. Samuel Brown est un Allemand qui s'embarque sur un navire hollandais au début du XVIIe siècle. De mémoire, je crois que c'est 1617, mais voilà. Et qui, à son retour, fait un récit de son voyage. Alors, il est allemand, il n'est absolument pas français, et donc absolument pas normand. Son ouvrage est publié en latin et en allemand. Et on a l'impression que dans son texte en allemand comme en latin, en fait, il traduit quelque chose qui pourrait avoir une source commune avec le texte transmis par Rony.
A donc, messire Jean, requérit Jean d'Illec permission de prendre terre et bâtir plusieurs maisons pour y mettre celles marchandises et eux à sauveté, sauf que les seigneurs volontiers l'y octroyèrent et les aidèrent à faire celles maisons. A donc, celle de la navée, Tresters leur naissent sur la costière, les seigneurs celle partie, moult désirois l'alliance messire Jehan, de ce temps commence à l'y fait de marchandises avec les navires de Normandie et s'il homme noir.
Alors le texte n'est absolument pas évoqué par le Villot, mais on retrouve quelque chose qui est très très proche dans le récit de Samuel Brown. Qui parle des Français, hein, qui seraient venus donc, dans cet espace. Ils demandèrent l'autorisation de construire un entrepôt. C'est moi qui ai traduit, hein, le mot est un peu, peut-être, pas tout à fait équivalent. Ce que les Noirs qui étaient avec eux en très bonne intelligence leur accordèrent volontiers. Ils construisirent donc un assez grand magasin et transportèrent leurs marchandises à terre. Ils établirent ainsi un commerce d'autant plus avantageux qu'alors les habitants de ce pays échangeaient l'or contre des marchandises sans le mesurer autrement qu'à l'œil. La dernière phrase est évidemment un commentaire de Samuel Brown que l'on ne trouve pas dans le texte de Rony, mais qui a un sens pour les africanistes. On est dans la région des marchands à Caen, hein, avec ce système de balance, hein, que certains connaissent peut-être, et ce système de poids très, très célèbre dans cet espace, puisque les marchands à Caen utilisent des systèmes de poids qui sont en cohérence avec les systèmes occidentaux, principalement portugais, mais aussi avec un autre système qui est celui des marchands arabes. Et là, on est peut-être dans un temps antérieur, hein, d'après ce que dit Samuel Brown, un temps avant l'apparition de ce système de mesure. Alors, pour conclure, il semble quand même que l'on puisse faire confiance à Rony dans son travail. Personne n'a douté de son honnêteté, de sa probité. Il a des compétences de médiéviste réelles, je crois que Françoise les a démontrées, et clairement, il ne peut pas être le faussaire. Ce texte ne présente aucune incohérence linguistique, en tout cas importante, hein, qui permettrait d'affirmer qu'il s'agit d'une forgerie. Mais la fin du texte contient plusieurs éléments que l'on peut considérer quand même anachroniques. En tout cas, ces éléments, on ne les retrouve pas dans le récit de Villot, ce qui est important aussi à noter. Il nous semble donc qu'il pourrait s'agir d'ajouts postérieurs à la rédaction primitive qui serait médiévale, comme Françoise l'a dit tout à l'heure. Ce texte de Ronis, il reprend en partie une source médiévale centrée sur l'anoblissement de Pruneau, n'en est pas une copie fidèle. Le titre indique que cette source perdue comprenait aussi alors, un colloque et une description des mœurs des Africains. Ces parties nous sont aujourd'hui perdues. Cette manière de faire n'est pas en contradiction avec ce que l'on sait de la façon dont travaillaient les copistes et les historiens du XVIe et du XVIIe siècle. Je pense notamment au plus célèbre récit pour les africanistes, hein, pour cette période, qui est le récit de Delafosse. Eustache Delafosse donc, entreprend un voyage en 1479, qui est très célèbre hein, dans ces milieux, mais on ne connaît son récit qu'à travers une copie incomplète et remaniée de 1548, qui comprenait d'ailleurs un glossaire. C'est le cas aussi du voyage de Jacques Cartier, publié en 1545, des récits en italien publiés par Ramusio en 1566, ces textes hein, qui viennent de faire l'objet d'une réédition à la Mairesage par Guillaume Lelièvre, et à l'étranger également, l'ouverture de l'Afrique aux marchands anglais, hollandais, à partir de la fin du XVIe siècle, encourage une production historique et une documentation écrite nouvelle, qui est marquée par plusieurs ouvrages, comme celui de Peter Desmarets, de Samuel Brown, hein, que j'ai évoqué. En France, les récits de voyage sont très à la mode durant les règnes d'Henri IV, de Louis XIII, notamment grâce à Pierre Bergeron, géographe du roi, qui en rédige plusieurs ou qui en réécrit certains, comme ceux de François Pirard, 1611, Jean Moquet, 1617, ou Vincent Leblanc, à la même époque. C'est l'époque aussi où Pierre Bergeron redécouvre le récit hein, de Jean de Bettencourt. Donc c'est une période pendant laquelle on aime ressortir des récits anciens, en produire de nouveaux, à un moment où ces expéditions maritimes et commerciales connaissent d'ailleurs un certain déclin hein, dans les années 1620-1630 à Rouen et à Dieppe. Peut-être donc notre affaire s'inscrit-elle dans ce grand mouvement. Et nous vous remercions.